Perché non sa voler bene?
Perché non è vero che una donna possa cambiare un uomo.
Perché non sa voler bene?
أنت لاعب الكرة. هل تعرف أن الكرة محرمة؟
You know, I don't see what there is to be cagey about, Mr. Marlowe. And I don't like your manners.
Well, I'm not crazy about you, as I didn't ask to see you.
Mais recueillons-nous plutôt devant l'image de souffrance de ce beau visage de prédateur des montagnes.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Transistor pour D'étoiles plein les yeux, votre émission de cinéma qui est de nouveau hebdomadaire pour ce 92e numéro. Et cette semaine, notre toile se chauffe au soleil cannois avec deux films présentés au dernier festival, à savoir En guerre de Stéphane Brisé et Everybody Knows d'Asghar Farhadi. Quant aux yeux, ce sont aujourd'hui ceux de Maë, Maëlle et Sarah qui sont à mes côtés. Et je te retrouve tout de suite, Maë, pour commencer avec En guerre. Bonjour, Maë.
Bonjour, Rémi.
Alors, En guerre, qu'est-ce que c'est cette guerre? C'est la guerre d'un collectif d'ouvriers contre la fermeture de leur usine à Agen, une usine de sous-traitance automobile. Et c'est la guerre en particulier d'un personnage central, le délégué syndical CGT joué par Vincent Lindon, qui porte vraiment ce mouvement. Et on suit de très très près, d'une façon extrêmement immersive, et on reviendra sur les procédés qui permettent de provoquer cette immersion, et bien ce mouvement social, la façon dont il se déploie, la façon dont il se termine, pas forcément très bien non plus, et on y reviendra aussi avec quelques petits spoilers en fin d'émission. Mais donc voilà, vraiment un film qui nous plonge au plus profond de cette espèce de dynamique collective, essaye d'en rendre compte avec, essaye de communiquer la rage de ces ouvriers. Et on va voir tout de suite si ça a fonctionné. Maë, qu'est-ce que tu en as pensé?
Eh bien, moi j'ai aimé. Et d'autant plus que je savais vraiment pas à quoi m'attendre quand je suis allée le voir. Et en fait, oui, je trouve que ça a bien fonctionné pour moi. Après, je me suis quand même posé plein de questions. J'ai quelques retenues dont on va pouvoir débattre, je pense.
Oui, ben alors, c'est le genre de film qui fait toujours un petit peu peur derrière son qualificatif un peu facile de film social, où on a l'impression qu'on est toujours un petit peu coincé dans l'espace défini assez méthodiquement par les frères Dardenne et Ken Loach, tranquillement, et c'est d'autant plus agréable lorsqu'on a une belle surprise, et là c'est vraiment une très très belle surprise. C'est vraiment l'un des films sociaux, puisqu'il faut bien les appeler comme ça, les plus puissants que j'ai vus, sinon le plus puissant. C'est vraiment d'une force assez incroyable, justement dans cet aperçu d'instantanéité que ça donne. Et peut-être qu'il faut commencer par là, par le rythme du film qui vraiment nous emporte, m'a en tout cas littéralement emporté. Enfin vraiment, ça démarre de façon extrêmement brutale dans le feu de l'action, avec une très très longue scène extrêmement animée qui ouvre le film avant même vraiment le générique de début. Et puis ça s'arrête jamais vraiment. Il y a une espèce de caméra est vraiment plongée en plein au milieu de ce groupe d'ouvriers, comme si elle était l'un d'entre eux, et du coup comme si on était l'un d'entre eux. Et c'est assez significatif de voir aussi nos réactions, mes réactions en tout cas en tant que spectateur, où il y a vraiment des moments, dans certains grands moments de lyrisme militant aussi, où j'avais envie de me lever, d'applaudir. Enfin, on est vraiment en plein dans le feu de l'action.
Il y a une vraie finesse, j'ai trouvé, effectivement, dans le montage du film et dans sa construction, et aussi dans la gestion des acteurs. Disons que c'est simple, mais du coup d'autant plus efficace que justement ça en rajoute pas, ou alors juste ce qu'il faut pour nous emporter. C'est-à-dire que les scènes sont souvent sans musique, on a des acteurs qui improvisent, je crois, leurs textes la plupart du temps. Du coup, on est dans une sorte de réalisme très brut, et en même temps, on a quand même une musique, d'ailleurs, qui est très bien, qui, petit à petit, arrive et nous emporte et vient être rompu brutalement pour retourner vers une sorte de réalisme, ce qui fait qu'il y a une sorte d'équilibre qui est trouvé, je trouve, entre justement le documentaire, la fiction, et juste assez pour nous emporter aussi en tant que enfin, c'est aussi quelque chose d'esthétique quoi, qu'on va voir au cinéma, c'est pas un documentaire ou alors juste un reportage télévision d'ailleurs, il faut qu'on en parle.
Il va falloir en parler,
du
oui.
Du reportage télé, parce qu'il y a, des, il y a ces séquences là de... Bah ouais, de journal TF1 qui, ou TF1 ou BFM, je sais pas, il y a un peu de tout, qui viennent couper le film et qui viennent aussi montrer que le regard de la caméra importe.
Ouais. Oui, alors t'évoques beaucoup de trucs sur lesquels il faut absolument revenir, et en effet, formellement, un élément très marquant de ce film, c'est les très nombreuses scènes sur lesquelles est plaqué un habillage de télévision et où du coup on alterne les moments où on est vraiment en plein dans l'action au premier niveau, et puis des moments où elle est soudain relativisée avec les chaînes d'infos en continu. Mais c'est vrai que ça met aussi énormément en perspective le regard que ces chaînes d'information posent sur ce qui se passe. Alors c'est très très fin, j'imagine qu'il y a eu un certain nombre d'accords assez amusants passés avec les différentes chaînes de télé. À un moment, on reconnaît l'un des reporters célèbres de France 2, qui l'a fait jouer dans le film d'ailleurs, et ça se prête à sourire. On a certains personnages comme ça qui sont joués par les vrais, entre guillemets. Et c'est vrai que autant ça peut paraître dit comme ça comme un gadget formel, enfin c'est vraiment pas le cas en fait. Il y a vraiment pas de dimension gadget là-dedans, et c'est d'une efficacité assez insoupçonnée ces inserts de journal
télé.
Oui,
c'est ça. Ouais. Il y en a dès le début. Et j'avoue que moi le premier, j'ai vraiment eu très très peur. Je me suis dit, j'ai eu très très peur. Et après effectivement, en fait il y a un message comme tu dis très fin qui arrive à passer derrière. Il y a pas besoin de d'en dire vraiment plus, on comprend quoi ce qu'il est en train de nous raconter avec ces images-là.
Et ça renforce cette impression d'immédiateté quoi. On est vraiment dedans. C'est vraiment comme si on était devant notre télé et qu'on voyait de la vraie actualité. Et tu parles de cette musique qui vient oui juste scander de temps en temps un peu la fin des scènes. Ça fait un peu penser à du, je sais pas, à ce qu'on pouvait voir sur Nocturama de Bertrand Bonello, des espèces des rythmes sourds un peu qui entretiennent une espèce de moiteur de l'atmosphère. Mais c'est vrai que très souvent les images se suffisent à elles-mêmes aussi par leur violence terrible parce que Stéphane Brisé et Vincent Lindon, et on reviendra sur Vincent Lindon qui est quand même vraiment la pierre angulaire de ce film, mettent en jeu une violence sociale absolument terrible. Et en fait, oui, il rajoute rien, mais parce qu'il n'y a rien à rajouter à la violence évidente de ce qui est en train de se passer sous nos yeux, de ce qui s'est passé des dizaines de fois dans l'actualité, mais qui là, soudain, est jeté sous notre regard pendant une heure et demie. Et c'est à la fois... Il y a à la fois des moments extrêmement jubilatoires dans les grands moments de victoire militante, de vie collective aussi de ces ouvriers, et il y a quelque chose de très très beau, enfin c'est vraiment ce qu'il peut y avoir de plus beau dans les expériences militantes qui nous est donné à vivre parce qu'on est vraiment impliqué en tant que spectateur dans ce qui se passe. Et en même temps il y a les situations les plus cruelles dans lesquelles on se trouve aussi plongé un peu de gré ou de force.
C'est sûr que ce que réussit très bien Brisé, c'est de montrer cette violence absolument terrible, qui d'ailleurs il la distille tout au long du film jusqu'à ce qu'on soit complètement écœuré en fait. Et c'est là où d'ailleurs on voit que il y a quand même un regard dans ce film, il prend quand même clairement position. Mais ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'était que il prenait position, mais il simplifiait pas non plus la situation, et il montrait bien que c'est le véritable ennemi, c'était pas forcément ni les cadres ni les directeurs ni les usines, mais quelque chose de bien plus informe, je dirais, qui est le marché, le capitalisme. Mais et ça, j'ai apprécié, je trouve qu'il y avait une réflexion vraiment de fond sur ce genre de situation là tout en ne dissimulant pas la violence sociale terrible que ça représente. D'ailleurs, faudra qu'on reparte de la fin, mais
on vous mettra une petite spoiler alerte, ouais. Là, par contre, c'est indispensable.
Mais il va falloir en parler quand
mais
même.
Mais il va falloir parler de la fin de ce film. D'ailleurs, on peut peut-être le faire maintenant. Donc là, chers auditeurs, vous sautez deux minutes. Mais parlons donc tout de suite de la fin, puisque ce combat syndical, il est perdu. Il est perdu et il se solde par une scène tournée au téléphone portable depuis un étage comme on pourrait la voir sur internet, effet d'immédiateté supplémentaire encore où on passe même plus par le média télévision, où notre personnage principal Vincent Lindon s'immole par le feu devant le siège de l'entreprise et le dernier plan montre les visages accablés de tous ces camarades syndicalistes et cette façon de finir le film finalement qui pouvait paraître être versé dans l'excès justement je trouve nous permet d'éviter un discours un peu pontifiant qui nous aurait forcé à dire que bon ben la vie redevient normale.
Est-ce que c'est pas un peu trop justement cette scène finalement vraiment? Elle m'a plu dans le sens où elle allait dans un sens dramatique qui était assez agréable en tant que juste spectateur parce que voilà, il y a une sorte de tension qui enfle tout le film, il faut qu'elle aboutisse à quelque chose. Mais j'ai trouvé que justement, elle tuait dans l'œuf certaines réflexions sur le militantisme, sur ce genre de lutte-là. Elle tuait aussi dans l'œuf. Et la limite, c'était bien parce que c'était une réflexion que je me faisais depuis le début sur ce personnage de Vincent Lindon.
Ouais.
Qui, bon, là, en s'immolant par le feu, bah, il devient absolument martyr et on ne peut plus rien lui reprocher. Mais, et là, bon, on ne parle plus vraiment de la fin, mais j'ai quand même envie d'en parler. C'est justement ce personnage qui m'a beaucoup interrogée sur comment, en fait, on montre une lutte commune, syndicale, de plein de gens tous ensemble, et quand même il y a ce personnage là qui ressort, c'est d'ailleurs le seul vrai acteur dans le film et qui va...
Acteur professionnel, disons-le.
Oui, professionnel, parce que les autres sont des bons acteurs. Mais et c'est là où on se rend compte qu'il y a aussi je sais pas, l'individu prend de la place aussi dans ce genre de mouvement, peut-être l'ego, et du coup cette dernière scène empêche...
Mais
je
suis pas du tout d'accord. Alors là, je suis vraiment pas d'accord. En fait, pour moi, elle renforce vraiment ce discours-là. Elle montre aussi le fait que le jusqu'au boutisme confine à une absurdité qui rend impossible toute poursuite de la vie, quoi, tout simplement.
Mais elle empêche de porter une critique sur l'engagement de ce personnage-là.
Mais je pense pas. Je sais pas. Je trouve que ça ajoute une dimension à la réflexion. Que ces regards accablés qu'on voit à la fin du film, justement, deviennent les nôtres. Que ces regards accablés qu'on voit à la fin nous posent la question de quelle aurait été notre position là-dedans.
Moi, je trouve que ça pose trop le personnage comme martyr. Et qu'on n'avait pas besoin de ça pour le voir déjà comme un martyr quelque part, et de le voir comme une victime, d'être de son côté. Et du coup...
Peut-être parce que je trouve pas que ça le pose en martyr.
Peut-être.
mais parce que justement, en fait, il aura été acteur de la lutte jusqu'au bout. C'est le seul qui sera resté maître de sa lutte. C'est l'anti-martyr dans cette histoire. C'est le seul qui n'a pas été martyrisé, finalement. Et puisqu'on en parle, il faut quand même enchaîner et peut-être terminer, malheureusement, sur Vincent Lindon, qui... Que j'ai pas peur de qualifier de meilleur acteur français de sa génération et qu'est-ce qu'il est bon, enfin je veux dire c'est aussi
il
simple que
bon,
ça
oui.
ce bloc de rage et cette force qu'il est capable de diffuser autour de lui, enfin c'est vraiment d'une puissance
Il a un charisme assez incroyable.
Ouais, c'est ce regard, enfin, je veux dire, il y a vraiment quelque chose d'incroyable dans l'appropriation de cette colère par cet acteur et la puissance d'incarnation dont il fait preuve dans ce film.
J'ai rien à ajouter là-dessus.
Oui, bon, bah, bref, on le conseille.
On le conseille, oui, ouais, c'est
on
sûr.
On conseille chaudement à nos auditrices et nos auditeurs. Ça s'appelle En guerre, c'est signé Stéphane Brisé. Ça n'a rien obtenu à Cannes, malheureusement, même si le jury a pourtant choisi de décerner un certain nombre de prix politiques. Il s'est peut-être trompé dans le choix plus précis des prix. Bref, peu importe. Et ça passe encore pour un petit moment chez nos amis des cinémas Lumière.
Bonjour Maëlle et Sarah, bienvenue au studio de Transistor Maëlle, c'est la première fois que tu viens parler avec nous. Hier vous avez vu Everybody Knows de Asghar Farhadi, est-ce que déjà vous pouvez nous résumer un petit peu l'intrigue du film ?
Eh bien bonjour Maëlle, est-ce que tu veux t'en occuper ou tu préfères que je fasse un résumé sachant que c'est moi et que ça part toujours en vrille ?
Bien, je te s'en prie, vas-y.
D'accord, donc nous sommes partis pour partir en vrille. Eh bien, dans ce film, on est au cœur d'un village espagnol qui se situe en fait à tout près de Madrid, Torrelaguna, et c'est au beau milieu de vignobles, donc c'est très très beau. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, dans un village espagnol, il y a une grande famille qui organise un mariage, et lorsque Laura revient avec ses enfants, elle revient d'Argentine, eh bien tout d'un coup, mille choses se révèlent sur la famille, sur plein de complications entre la famille et certains villageois, et en plus de ça, on assiste à un enlèvement. Voilà, et donc toute l'histoire va se dérouler ensuite entre ces dissensions entre la famille et les autres villageois, ces dissensions au sein même de la famille, et puis évidemment la recherche de la personne enlevée.
D'accord, et du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film ?
Je l'ai bien aimé. Je ne pense pas que ce soit un très grand film, mais c'était vraiment un moment de plaisir, 2h10 de plaisir.
Et toi, Maëlle ?
Je dirais que... Alors, on en a discuté un petit peu. Il y a effectivement cette question d'enlèvement qui pourrait faire penser que c'est un petit peu un film policier. Mais effectivement, comme tu le disais, le centre des problématiques de ce film, c'est les dissensions familiales qui ne sont jamais dites vraiment clairement. Et donc, on pourrait avoir l'impression qu'on va suivre une enquête au fur et à mesure. Mais c'est vraiment ces problématiques-là qui sont intéressantes et voilà qui...
Oui, on s'était demandé un moment si c'était un film policier ou pas, et je pense que notre réponse c'est non, alors que pourtant il y a un enlèvement, il y a toute une enquête qui se fait, mais déjà la solution de l'énigme est délivrée avant la fin du film, donc le film continue après, ce qui montre en mon sens que ce n'est pas forcément un film d'enquête spécialement. Et ensuite, il est vrai que les dissensions familiales prennent le pas sur l'enlèvement.
Et ainsi que le rapport de l'un des l'un des personnages qui ne fait pas partie de la famille mais qui a réussi à récupérer une partie du domaine familial alors qu'il était en couple avec l'une des jeunes filles de la famille. Qui a racheté donc ces terrains à bas prix parce que cette fille avait besoin de beaucoup d'argent. Et donc cet achat crée énormément de dissensions, sachant qu'il était fils d'un domestique au départ. Donc il a réussi à s'élever socialement tout d'un coup, ce qui crée des jalousies. Et donc c'est un peu cette ascension soudaine et en même temps les dissensions qui sont provoquées qui créent un petit peu l'intérêt du film. Et c'est vraiment pour moi ce personnage qui est au centre de la tension, bien que finalement bon, je spoil un petit peu peut-être.
Attention spoiler.
Finalement, c'est lui qui va perdre le plus dans cette histoire. Et c'est, oui. C'est l'intérêt que je trouve dans ce film, c'est la déchéance discrète de ce personnage.
Oui, alors il s'appelle Paco et c'est effectivement l'un des personnages centraux. En fait, c'est même le personnage le plus actif de toute l'histoire. C'est-à-dire qu'il s'occupe de résoudre l'enquête, il s'occupe aussi de résoudre la situation d'une manière générale. Et pourtant, j'ai trouvé que c'était un personnage qui était quand même assez effacé, parce qu'il est à la fois effacé par la famille, ce n'est qu'un fils de domestique finalement, il est rejeté par son ancienne copine, Laura, et à la fin, effectivement, c'est un peu comme tu disais hier, un héros tragique, d'une certaine manière, mais toujours très discret, sans aucun panache, sans aucun pathos exagéré. Et je crois que c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est la subtilité avec laquelle sont décrits les événements. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune exagération.
Oui, effectivement. Et effectivement, s'il n'y avait pas ce personnage-là, personnellement, je trouve que le film n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Enfin, c'est vraiment ce personnage-là qui m'intéresse. J'ai toujours un peu ce sentiment avec les affaires policières, que c'est quelque chose à consommer une fois. Une fois qu'on connaît la réponse, on ne regarde pas forcément le film, et là effectivement ce personnage donne vraiment un intérêt au film.
Oui, oui, oui. Et c'est justement une qualité du film, le fait de n'être pas qu'une enquête policière, mais aussi de révéler beaucoup de choses sur une famille. Alors hier, on a eu tout un débat sur les possibles influences ou les possibles thématiques de ce film. Moi, ça me faisait beaucoup penser au Bruit et la Fureur de William Faulkner. Bon, j'ai dû l'étudier un peu l'an dernier en lettres modernes. Et vraiment, dans Le Bruit et la Fureur, en fait, on voit à peu près le même schéma, pour moi du moins, avec une famille de riches propriétaires qui sombrent petit à petit dans la déchéance. Mais c'est petit à petit, ça se fait de génération en génération. Et là, j'avais à peu près cette impression. Mais bon, Maël n'était pas forcément d'accord avec l'idée de déchéance qu'il trouve un peu trop forte.
Je trouve ça un peu fort, effectivement, puisque bon, le grand-père, donc le pater familias, est déjà, enfin, il est vieillissant, il a des béquilles, quand il boit, il se met à s'énerver contre tout le monde. Donc lui, il est déjà déchu depuis longtemps, la famille n'a plus d'argent depuis un moment. Pour moi, c'est pas tellement la déchéance d'une famille puissante, c'est surtout, enfin, c'est quelque chose d'assez stable, c'est cette espèce de continuité dans les dissensions familiales qui finalement pourraient exister de tout temps, qui existeront sûrement de tout temps dans cette famille-là et dans d'autres familles. Donc pour moi, il y a vraiment une stabilité dans une sorte de médiocrité.
Bah, après, effectivement, il y a une certaine stabilité. On peut quand même nuancer en disant que la famille est quand même assez émiettée. On la voit complètement détruite. D'ailleurs, il y a un personnage qui dit mais arrêtons tout ça parce que cette famille est en train de se détruire. Mais d'un autre côté, effectivement, on retrouve un peu la stabilité dans la dernière scène où la famille, enfin certains membres de la famille apprennent qui exactement a enlevé la petite qui a été enlevée. Et en fait, on les voit discuter, mais on n'entend plus leur voix. C'est déjà la fin du film. Et on se dit, ah, dans cette famille, il y a toujours des bruits qui courent, des secrets qui sont à moitié révélés, qui sont plutôt murmurés, en fait, que révélés. Et ça n'explosera jamais complètement.
Ce qu'il y a d'assez beau, je crois, dans cette famille, c'est que il n'y a pas que le souci de garder bonne figure face au reste du village, même si c'est un problème vraiment présent. Je pense qu'il y a en soi beaucoup d'amour en soi entre tous ces membres de la famille. Ils ont vraiment l'air de s'aimer, on le voit au départ, pendant le mariage. Je pense qu'ils sont tenus par un amour familial extrêmement puissant. Et ça a une forme de grandeur, je trouve. J'ai parlé de médiocrité, c'est peut-être un peu fort.
Bah, je pense que c'est un peu toute la question qu'on peut se poser sur la famille, justement. Est-ce que c'est vraiment un clan qui est soudé et qui s'aime, ou est-ce que ce n'est pas un clan qui fait semblant d'être soudé? Est-ce qu'il n'essaie pas de maintenir une certaine illusion? Après tout, les enfants partent, il y en a une qui part en Argentine. Finalement, personne n'agit vraiment pour retrouver la petite enlevée.
Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu transcendant qui dépasse l'éloignement géographique, qui dépasse les grosses dissensions éventuellement, les gros secrets de famille. Je pense qu'il y a le fait d'être une famille et que ça va tout dépasser, ça va permettre de toujours rester unis, on restera toujours unis par le sang et on a l'impression que rien ne viendra détruire cette famille, quoi qu'il arrive.
Eh bien, c'est une question à se poser, je pense. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet effet que tu décris de famille assez soudée, ça mène, je trouve, le spectateur en huis clos. Alors que pourtant, nous ne sommes pas du tout en huis clos. On voit beaucoup la maison, effectivement, la grande maison familiale. Mais on sort aussi de temps en temps. Et d'ailleurs, c'est très beau, les paysages que l'on voit. Il y a un petit pont de pierre. À un moment donné, je trouvais ça magnifique. Et la première scène, avec les pigeons dans le clocher, c'est très beau aussi.
Oui. Il y a de belles inventions cinématographiques.
Oui, 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 je pense.
Il y a de belles images.
Oui. Et il y a un moment que j'ai trouvé très rigolo, c'est dans la première scène. Il y a un pigeon qui entre dans le clocher à travers la fente d'une horloge. Et en fait, il n'arrive pas à ressortir. Je trouve ça rigolo.
Voilà, on a satisfait le potentiel comique de Sarah. Et peut-être aussi, vous pouvez nous parler un peu du casting qui est quand même assez, assez impressionnant, qui réunit tout le gratin espagnol, à commencer par Penélope Cruz, je vois, mais aussi Javier Bardem, Ricardo Darín, Edouard Fernandez. Ils jouent bien, ces acteurs ? Est-ce qu'on y croit ?
Ils jouent très bien. À Penélope Cruz, en tant que mère éplorée, est détestable, je trouve. Oui. Enfin, elle joue très très bien, hein, la mère éplorée qui ne sert à rien et qui essaie d'établir des stratagèmes pour retrouver sa fille, mais je l'ai trouvée détestable. Elle est tout le temps en pleurs, elle est en vieille chemise moisie, elle se traîne dans les escaliers.
Elle est quand même très belle. Hein. Ah, elle est quand même séduisante.
Ah, j'ai trouvé que Béa était plus jolie.
Oui, il y a beaucoup de beaux acteurs.
Ah oui, ils sont tous très beaux,
même les vieux.
Ouais.
Ils ont une bonne tête.
Oui. Ça va bien. En fait, on entre vraiment dans l'ambiance d'un vignoble espagnol, je trouve. À la fois par la tenue des acteurs qui... Vraiment, on croirait qu'on a juste filmé une famille espagnole dans un vignoble comme ça.
Alors, personnellement, j'ai une famille espagnole. J'ai fait deux mariages en Espagne. J'ai pas trop reconnu... Enfin, bon, c'est très cinématographique, quoi. C'est peut-être limite un peu cliché au départ quand il commence à danser le flamenco. Enfin, bon, je sais pas, dans ma famille, c'est peut-être pas tout à fait le même coin. Enfin, c'est la communauté valencienne. C'est pas forcément... Enfin, Madrid, c'est pas non plus l'Andalousie. Enfin, c'est pas le flamenco. Donc, bon, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu cliché
Ah, là-dedans. Mais peut-être qu'il n'avait pas de vignes. Voilà. Ça devait être pour ça, les vignes. Je pense que ça donne envie de danser le flamenco.
Oui, sûrement. Mais, enfin, oui. Et puis, les acteurs sont très beaux. Je repensais à ma famille. Je me dis, bon, toute ma famille, pas forcément aussi belle. Enfin, il y a la grosse tante Vincente. Voilà. Elle est pas là, la grosse tante Vincente, Bicenta. Donc, voilà. Il y a quelque chose d'un petit peu...
Bon. Du coup, c'est un film que vous recommanderiez?
Je pense que oui. Je pense que c'est un film assez agréable. Après, ce n'est pas non plus... Enfin, je l'ai dit au début, ce n'est pas un très grand film, je pense, mais il a beaucoup de qualités. Quelques petits défauts. Par exemple, le titre en anglais, on ne comprend pas pourquoi. Alors que... Il n'y a aucune firme anglaise qui a soutenu ce film, enfin, je crois. C'était
oui,
plutôt
j'ai rien vu,
complètement espagnol.
C'est soutenu par France 3, par Canal+, aussi, enfin, par des producteurs français, mais...
Mais voilà. Donc,
d'accord, donc sauf voilà. Le titre.
Voilà, notre anti-anglicisme pris. Notre...
Mais il a beaucoup, beaucoup de qualité.
Mais effectivement, je ne sais pas si c'est un grand film. Heureusement qu'il y a ce personnage de Paco, mais sinon, bon. Mais c'était sympathique à voir.
D'accord, bien, merci tous les deux pour votre critique éclairante. Et voilà, maintenant je te laisse le soin de terminer, Rémi.
Et merci beaucoup Maë pour avoir animé ces petites discussions pendant une absence malencontreuse de votre serviteur. Et je termine quand même avec quelques petites sorties ciné pour la semaine. Et il y en a un peu plus que quelques-unes cette semaine. Retour de Cannes oblige, mais avant de parler de Cannes, je rappelle que le cinéma ne se limite pas au festival. Il y a encore quelques films non cannois à voir en ce moment. Et on commence par un truc un petit peu ovni qui va sans doute susciter des réactions un petit peu vives de part et d'autre. Ça s'appelle Rester vivant, méthode. C'est signé Eric Lissout et Rainer van Brummelen. C'est avec Iggy Pop et Michel Houellebecq. Oui, observez ce casting assez impressionnant. Et qu'est-ce qui s'y passe? Eh bien, Iggy Pop nous présente une méthode pour rester en vie dans un monde impersonnel, c'est-à-dire laisser rester vivant, méthode de Michel Houellebecq et les expériences personnelles d'Iggy Pop qui sont les points de départ de cette quête, laquelle s'intéresse au rôle du poète, aux artistes en difficulté, aux problèmes de santé mentale. Voilà, un truc qui a l'air relativement détonnant, et je vous renvoie vers la bande-annonce pour vous donner envie de voir ce film qui passe au cinéma, le cinéma, pendant toute la semaine. Et dans le même cinéma, la reprise également de Les Anges portent du blanc de Viviane Kuh. Nous sommes dans une modeste station balnéaire et deux collégiennes sont agressées par un homme d'âge mûr dans un motel. Mia, l'adolescente qui travaillait à la réception, est la seule témoin. Elle ne dit rien, par crainte de perdre son emploi. Par ailleurs, Wen, l'une des victimes de 12 ans, comprend que ses problèmes ne font que commencer. Un de ces thrillers asiatiques que l'on aime à regarder, dont la bande-annonce est là aussi assez impressionnante. Enfin, un film qui a un petit peu fait l'événement, Senses de Ryusuke Hamaguchi, film découpé en 5 parties que vous pourrez voir par paquet de 2 films chez nos amis des Cinémas Lumière d'ailleurs, qui a été primé de multiples fois au Festival de films de Locarno en 2015. Nous sommes à Kobe au Japon où 4 femmes partagent une amitié sans faille, du moins le croient-elles quand l'une d'elles disparaît soudain du jour au lendemain, l'équilibre du groupe vacille, chacune ouvre alors les yeux sur sa propre vie et comprend qu'il est temps d'écouter les émotions. Ses émotions et celles des autres, un film qui, je disais, fait l'événement, qui a séduit assez unanimement la critique et dont les 5 parties sont donc à voir encore en salle pour quelque temps. Et passons donc maintenant aux sorties cannoises avec 3 sorties notables. La première, Manifesto de Julian Rosenfeld, sélectionné à Sundance cette année. Et je ne sais pas pourquoi je parle de Cannes, parce que je ne crois même pas que ça y était. À travers 13 personnages, dont une enseignante d'école primaire, une présentatrice de journal télévisé, une ouvrière, un clochard, Cate Blanchett scande ses manifestes composites pour mettre à l'épreuve le sens de ses textes historiques dans notre monde contemporain. Voilà, Cate Blanchett dans 13 rôles différents pour ce film Manifesto, qui lui aussi a aussi pas mal fait parler de lui. Ensuite, un film sélectionné à un certain regard cette année, Gueule d'ange de Vanessa Fillot avec Marion Cotillard. Une jeune femme vit seule avec sa fille de 8 ans. Une nuit après une rencontre en boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant livré à elle-même. Film qui a particulièrement marqué Cannes cette année. Et puis évidemment, dans les sorties cannoises, comment passer à côté de la sortie, enfin, de L'homme qui tue à Don Quichotte de Terry Gilliam, qu'on attendait depuis 25 ans, avec donc, pas Jean Rochefort, mais Jonathan Pryce et Adam Driver dans ce film qui était en compétition à Cannes et a été présenté en séance de clôture, où Toby, jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, est pris au piège des folles illusions d'un vieux cordonnier convaincu d'être Don Quichotte. Embarqué dans une aventure de plus en plus surréaliste, il se retrouve confronté aux conséquences tragiques d'un film qu'il a réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste et qui a changé pour toujours les rêves et les espoirs de tout un village. Film délirant comme Terry Gilliam sait les faire et qui aura marqué par ses échecs successifs l'histoire du cinéma. Échecs successifs qui avaient été recensés dans le documentaire Lost in La Mancha de Keith Fulton et Luis Pepe. Ce making-of qui dévoile les coulisses d'un film inachevé, donc, et achevé maintenant. Les deux réalisateurs ont suivi Terry Gilliam dans son combat désespéré pour sauver ce projet qu'il développait depuis plus de 10 ans. Le documentaire date de 2003 et est rediffusé toute la semaine au cinéma Lumière Fourmi, ainsi donc que le film qui a fini par avoir lieu. Du côté des festivals, le festival Documenteur se termine dans les salles lyonnaises. Donc festival de faux documentaires avec une séance de clôture dimanche à 20h30 au Lumière Terreau, séance suivie d'ailleurs de la remise de prix. Et qu'est-ce qui sera projeté? Ça sera REC, petit sigle qu'on aime bien nous en radio. Et qu'est-ce qui s'y passe? Eh bien, alors qu'ils suivent des pompiers lors d'une intervention, une reporter et son caméraman restent coincés dans un immeuble placé sous quarantaine. À l'intérieur, ils font face à d'étranges créatures. Le film était sélectionné à Venise et a été primé plusieurs fois à Gérardmer. De quoi vous donner envie d'aller le voir si vous êtes amateur de films de genre et d'épouvante. Du côté des festivals également, une soirée pour les Nuits en Or 2018, ce sera vendredi 25 mai à 20h45 au Lumière Bellecour. Cette soirée en partenariat avec les Césars vous donne à voir les meilleurs courts-métrages de chacun d'un certain nombre de pays, donc entre autres le César du meilleur court-métrage, mais aussi des courts-métrages internationaux. Un cinéma un peu marginal, en tout cas qu'on voit pas souvent dans les salles de cinéma, mais qui gagne à être vu parce qu'on y découvre généralement des pépites assez incroyables. Et je termine, promis, avec quelques petites, non pas sorties, mais ressorties, dans le cadre de la rétrospective consacrée. Dans le cadre de la rétrospective consacrée à Claude Autant-Lara, une soirée aura lieu à l'Institut Lumière jeudi à 16h30, suivie de la projection de la Traversée de Paris avec Bourville, Jean Gabin, Louis de Funès, le célébrissime film d'Autant-Lara. présenté donc par Fabrice Calzettoni à l'Institut Lumière. Et je termine avec Innocent de Bernardo Bortolucci, qui sera présenté jeudi également, mais à 20h45 au Ciné-Café Aquarium, où Isabelle et son frère Théo, restés seuls à Paris pendant les vacances de leurs parents, invitent chez eux Matthew, un étudiant américain, dans cet appartement où ils sont livrés à eux-mêmes. Ils vont fixer les règles d'un jeu qui mettra leur identité émotionnelle et sexuelle en jeu. Au fil des heures, la partie s'intensifie, les sens et les esprits s'exacerbent. Voilà, vous écoutiez D'Étoiles Plein les Yeux, 92e du nom, avec Maë, Maël, Sarah et Rémi aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour parler à nouveau cinéma. Et d'ici là, passez une bonne semaine dans les salles obscures.